RFI, grand reportage,
Céline Pellarin.
Le centenaire de la révolution d'octobre 1917 célébré sans éclat en Russie. La victoire des bolcheviks le 7 novembre 1917, 25 octobre, selon le calendrier alors en vigueur, ne sera célébrée que par des expositions et des colloques. Pas de grande commémoration. Les autorités russes ont visiblement décidé d'aborder avec beaucoup de prudence cet anniversaire. Il faut dire que 100 ans après, la prise du pouvoir par les bolcheviks continue de diviser la société russe, partagée entre la nostalgie de la puissance soviétique et le rejet des crimes qui ont suivi la révolution. Octobre 1917, l'héritage controversé de la révolution russe, c'est un grand reportage de Daniel Valou.
Nous sommes au cœur de Saint-Pétersbourg, tout près de la Neva, sur la place immense qui fait face au palais d'hiver. C'est ici que s'est joué, il y a presque 100 ans, l'épisode le plus célèbre de la révolution d'octobre, l'assaut des bolcheviks sur l'ancien palais des tsars, devenu le siège du gouvernement provisoire. La nuit est tombée, il fait un froid glacial, et devant le palais d'hiver, une centaine de personnes assistent à un son et lumière organisé pour commémorer la révolution. Parmi elles, Svetlana, venue avec sa petite fille, malgré le froid et l'heure tardive.
Pour vous, octobre 17, qu'est-ce que ça représente? C'est quelque chose de positif?
Mais bien sûr positif, parce que ma famille, mon père, il était paysan. Il était le simple paysan, inalphabète, il ne savait rien du tout. Alors que grâce à la révolution, il est devenu un homme, il a reçu l'instruction supérieure, il est devenu directeur de l'école. Moi aussi, j'ai une instruction supérieure, je suis physicien. Et sans révolution, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu juste être une paysanne dans un village.
Qu'est-ce qui a été positif dans cette révolution? Vous parlez de la situation de votre famille. Pour la Russie aussi, ça a été positif?
Oui, bien sûr. Pour le pays aussi, bien sûr. On a eu des gens pour qui c'était un drame, des nobles qui ont tout perdu, c'est vrai. Mais à la fois, pour des paysans, pour des ouvriers, pour des simples gens, la révolution a donné tout. Elle a donné une possibilité de faire des études, d'avoir l'instruction, de faire quelque chose dans la vie. Et je suis fière de mon pays. Et c'est pour ça que je suis là, pour fêter centenaire, je suis exprès là.
Un peu à l'écart sur la place, nous rencontrons Nina, venue elle aussi au spectacle, mais sans conviction. Octobre 17, pour elle, ce sont des souvenirs heureux liés à l'enfance, mais c'est aussi une histoire familiale douloureuse, bouleversée par la révolution.
Но в детстве была важная, а сейчас горечь вызывает.
Dans mon enfance, c'était très très important, alors que là, c'est plutôt je sens l'amertume.
Pourquoi de l'amertume?
А почему горечь?
Ну потому что у меня отец был казаком после революции.
Parce que pour ma famille, par exemple, mon grand-père était cosaque, il était du Caucase et il a fait le service militaire dans l'armée russe. Et après la révolution, sa vie a bouleversé et renversé. Donc la vie de notre famille a changé de mauvais côté. Dans mon enfance, comme j'étais un enfant soviétique, je n'ai pas rendu compte que c'était comme ça pour ma famille. Et pour nous, c'était la fête et j'étais contente.
C'est une histoire dont vous ne parliez pas au sein de votre famille qui était tabou.
Non, je savais même pas, on n'en a pas parlé, je savais même pas que mon grand-père elle faisait partie du convoi impérial, qu'il s'était basé à Peterhof, pas très loin de Saint-Pétersbourg. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Dans les familles, on n'en parlait pas et je regrette beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de tantes, beaucoup de cousins, beaucoup d'oncles qui auraient pu me raconter quelque chose mais qui sont morts déjà et je ne peux pas poser des questions, donc je regrette.
Mais pourquoi ils ne racontaient pas ce qui s'était passé pendant la révolution?
Mais comment vous dites, pourquoi les gens ne racontent pas?
Ils répression.
Ils avaient peur de répression, c'est évident.
Aujourd'hui, la révolution d'octobre 1917 continue de diviser la société russe. Certains y voient le début d'une période de guerre, de violence, de répression policière. D'autres, au contraire, évoquent la grandeur de l'URSS et la nostalgie d'une vie moins incertaine. 100 ans après, nous avons décidé de revenir à l'endroit précis où s'est déroulée cette révolution. Pavel Kotliar nous accompagne. Il est historien à Saint-Pétersbourg.
Les bolcheviks ne sont pas arrivés par l'entrée principale, mais plutôt par là, là-bas, sur le côté. Là-bas, vous voyez, là où il y a des arbres, du côté de l'Amirauté. En fait, ce n'était pas vraiment un assaut héroïque, comme on peut le voir dans les films soviétiques. Il y avait beaucoup moins d'assaillants, et les soldats qui étaient censés défendre le palais se sont rendus quasiment sans se battre. La réalité n'a pas grand-chose à voir avec le mythe qui a été construit autour de cet épisode.
Pourquoi est-ce que les dirigeants bolcheviks ont ensuite décidé de faire cette journée un moment si important pour le régime ?
Parce qu'ils voulaient instaurer la légitimité de leur régime. Octobre, c'était la révolution, contrairement à la révolution de février qui, elle, n'était pas considérée comme une véritable révolution parce qu'elle n'avait pas apporté le bonheur du peuple. C'était ça, le message de la propagande soviétique. Octobre, c'est la vraie révolution, celle qui marque le début d'une nouvelle ère.
C'est factiquement une nouvelle ère, si vous voulez.
Un peu moins fort. À Saint-Pétersbourg, le palais d'hiver n'est pas le seul site emblématique de cette révolution d'octobre. Il y a également le croiseur Aurore. Ce navire de guerre, amarré sur les bords de la Neva, est censé avoir joué un rôle crucial lors de la révolution. Les historiens estiment cependant que ce rôle a été largement exagéré à l'époque soviétique. Aujourd'hui, le croiseur est devenu un musée visité par de nombreux touristes.
C'est la première fois que je fais cette visite. Pourtant, je suis venue plusieurs fois à Saint-Pétersbourg, mais je n'étais jamais venue sur le croiseur Aurore. Vous savez, nous sommes des enfants de l'époque soviétique. Et à l'école, on apprenait Leningrad, la grande révolution d'octobre et l'Aurore qui a tiré sur le palais d'hiver. Même si en fait, ce n'était pas vrai. En réalité, l'Aurore n'a pas vraiment participé au combat et c'était surtout un acte d'intimidation.
L'année du centenaire de la Révolution, c'est tout naturel de venir voir l'Aurore. L'Aurore, c'est un symbole de la révolution socialiste d'octobre. Malheureusement, il y a très peu de choses dans ce musée sur ce qui s'est passé en octobre. Je pense que toute cette période est injustement oubliée. Aujourd'hui, tout ce qui est soviétique est considéré comme mauvais.
Vous le regrettez ?
Quelle que soit l'histoire, c'est notre histoire. Ça m'étonnerait qu'en France, vous négligiez votre propre histoire et l'histoire de votre révolution, malgré tout le sang qui a été versé à cette époque. La révolution d'octobre, c'est notre histoire et on ne doit pas l'oublier. Ce serait un crime contre le peuple, je pense, de faire ça.
Nous sommes maintenant dans l'une des salles du musée d'histoire politique, autrefois appelé musée de la révolution d'octobre, dans un bâtiment qui avait servi de quartier général aux bolcheviks avant de s'emparer du pouvoir. Nous sommes avec Sergueï Spiridonov, historien, qui a participé à l'organisation de cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet endroit et de ce bureau donc, qui a appartenu à Lénine ?
Vous voyez, c'est plutôt spartiate. Il y a la table où travaillait Lénine, un fauteuil, quelques chaises pour les visiteurs, le bureau de la secrétaire, quelques livres, une pile d'exemplaires de la Pravda, et puis de quoi faire du thé. C'était spartiate, mais il faut imaginer qu'il y avait tout le temps du monde. C'était un va-et-vient permanent.
Et là, il y a le balcon depuis lequel il a prononcé plusieurs discours pour s'adresser à ses partis.
Oui, c'est le balcon depuis lequel il a prononcé ses premiers discours à son retour d'exil. Devant une foule de gens, des soldats, des marins, des ouvriers qui voulaient voir le dirigeant bolchevique, c'est ici qu'il a exposé pour la première fois ses fameuses thèses d'avril. Pour les bolcheviks, c'était une sorte de programme d'action qui devait leur permettre d'arriver au pouvoir.
Devant le bureau de Lénine, un groupe de collégiens regarde avec attention le portrait du dirigeant bolchevique. À l'époque soviétique, le musée était consacré essentiellement à la révolution d'octobre. Désormais, une large place est consacrée à la révolution de février, à la chute du tsar et à la guerre civile qui a suivi la prise du pouvoir par les bolcheviks.
Nous voulons montrer que la révolution ne se limite pas à une seule journée, un seul événement, mais que c'est un processus long qui a commencé en février 1917 et qui s'est terminé en 1922 avec la fin de la guerre civile et la création de l'URSS.
Comment est-ce qu'était enseignée la révolution à l'époque soviétique et est-ce que ça a changé depuis ?
À l'époque soviétique, c'était les événements d'octobre qui étaient mis en avant. Octobre était présenté comme le point culminant de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, bien entendu. Les événements d'octobre, nous les considérons comme un coup d'État armé et nous les resituons dans le cadre d'un processus révolutionnaire qui s'est déroulé sur la longueur.
Bonjour, enchanté.
Merci.
Alors, je m'appelle Vera Obolensky. Je suis d'origine russe, donc française d'origine russe, de la troisième génération des gens qui ont émigré. Mon père est donc prince Obolensky de la 33e génération depuis Rurik. Ma mère est d'une famille noble russe d'origine allemande qui était installée en Russie depuis Catherine II.
Pour eux, octobre 17, ça a été forcément une catastrophe absolue.
Je crois que pour tous ces gens-là, c'était une catastrophe. D'abord, ils pensaient tous revenir à un moment ou à un autre, même moi étant petite. Quand on allait voir les amis de mon père, donc des gens qui avaient quitté la Russie en adulte, vivaient dans l'espoir de revenir.
Le départ, vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour votre famille ?
Non, parce qu'on n'en parlait pas. On n'en parlait pas directement, on parlait surtout de l'avenir de la Russie, de ce qui pouvait être fait, de ce que... Toutes les horreurs par lesquelles étaient passées ces personnes n'en parlaient pas. Je pense que c'était trop douloureux, je ne sais pas. Il aurait fallu que nous posions les questions nous-mêmes, je pense, pour en savoir plus.
Bon, on verse le thé comme on le fait ici, avec l'extrait de thé.
Je pense que ça a été une catastrophe pour la Russie, que la Russie a perdu énormément de temps avec cette révolution, parce que bon, il y a... des millions de personnes qui ont péri. Il y a beaucoup de contradictions. Il y a tous ceux qui sont toujours en train d'admirer Staline. Je trouve que c'est une catastrophe. Même des monuments qui sont érigés maintenant. Il y a un mélange absolument terrible de pro-communistes, anti-communistes, d'adoration du tsar. Enfin bon, il y a un bazar pas possible du point de vue historique, je trouve. Et pour plaire aux uns et aux autres, peut-être, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, bon, je trouve que ce centenaire, c'est pour nous, c'est pas une fête, bien entendu. Ouais.
Здравствуйте.
Quelques minutes seulement suffisent en taxi pour se rendre de l'appartement de Vera Obolensky au siège du Parti communiste de la Fédération de Russie. Quelques minutes pour passer d'un monde à l'autre, de la nostalgie de l'époque tsariste à celle de l'Union soviétique. Nous sommes reçus par Igor Moroz, le secrétaire du comité des jeunes communistes de Saint-Pétersbourg. Le jeune homme nous emmène dans une salle où trône un buste de Lénine.
La révolution d'octobre a apporté la paix et la liberté à notre peuple. Elle a apporté l'espoir pour toute l'humanité. La révolution d'octobre, c'est la journée de 8 heures. Ce sont les congés, l'éducation et les soins médicaux gratuits. Avant la révolution, mes arrière-grands-parents vivaient dans une hutte creusée à même le sol, avec leurs propres mains. Ils avaient 10 enfants et seulement 3 ont survécu. Après la révolution d'octobre, ils ont reçu une maison, du travail. Ils ont pu éduquer leurs enfants. Tous ont reçu une formation et ont pu devenir quelqu'un. Voilà ce que leur a apporté la révolution d'octobre.
À 22 ans, Igor Moroz n'a pas connu l'URSS, mais son discours est rodé. Comme tous les communistes de Russie, il se dit déçu par le peu d'importance donné par les autorités et par Vladimir Poutine au centenaire de la révolution d'octobre.
Il est clair que notre gouvernement essaie d'effacer la révolution d'octobre. La journée du 7 novembre n'est plus une fête nationale et a été remplacée par une fête célébrée 3 jours plus tôt, dont personne ne peut vous expliquer la signification. Les manuels d'histoire sont réécrits. C'est une tentative pour effacer de notre mémoire la grande révolution d'octobre.
Bonjour.
À Saint-Pétersbourg, les héritiers du bolchevisme côtoient les descendants des victimes de la Révolution, celles de la guerre civile et des grandes purges décidées par Staline dans les années 30. Dans son petit appartement du centre-ville, Galina Lourier nous raconte l'histoire de son père, dont elle n'a gardé qu'un seul souvenir, une photographie jaunie par le temps. En 1917, son père, d'origine noble, rejoint par conviction le camp de l'armée rouge. Mais dans les années 30, il est rattrapé par la répression stalinienne.
Quand j'ai eu 3 ans, mon père a été arrêté et c'était devant mes yeux. Il faisait nuit et tout à coup, il y avait la lumière partout. Il y a quelqu'un qui attend, j'ai commencé à pleurer. Ma mère m'a embrassée et mon père me disait, Gal, ne pleure pas, c'est par hasard, c'est rien de grave, alors qu'en réalité, c'était très grave. C'est la dernière fois que j'ai vu mon père.
Et vous savez pourquoi il a été condamné? Est-ce que vous avez eu un jugement? Vous avez...
En fait, il était arrêté avec la formule « sans droit de contact avec des proches ». Et cette formule était répondue. Et ça veut dire qu'il était fusillé. Et après Perestroïka, elle aurait pu peut-être se renseigner sur son sort, mais elle n'a pas voulu parce que pour elle, son père, il était mort ce jour-là. Elle n'a pas voulu d'avoir plus de détails sur comment s'est passé en détail, c'était trop stressant, trop douloureux.
Vous avez mis combien de temps après son arrestation à faire le deuil en fait de votre père et votre mère de son mari? Ça a été des mois ou des années pour vous dire que vous ne le reverriez pas?
Vous savez,
Elle attendait toujours, ma mère, elle attendait toujours.
Elle n'a jamais cessé de penser qu'il allait revenir?
Elle espérait toujours qu'il revienne jusqu'au bout, et sauf aux années 70, quand j'ai reçu ces documents, qu'il était mort. Et là, peut-être elle a accepté qu'il ne revient plus et elle est allée à l'église pour prier pour lui.
Cent ans après, les stigmates de 1917 n'ont pas disparu et la Russie reste profondément divisée sur le bilan de cette révolution. Pour l'ONG Mémorial, c'est parce que le travail de mémoire est resté inachevé. Nikita Petrov, historien et membre de Mémorial.
Pour l'instant, nous vivons sur des mythes et nous ignorons beaucoup de choses de notre passé. Nous sommes dans une situation où ces mythes sont utilisés pour justifier les répressions. Staline, le passé soviétique. Le mythe de la grandeur soviétique sert à gommer les répressions de masse et à gommer un passé qui a été, en réalité, une tragédie pour le peuple. Nous devons effectuer un travail en profondeur sur notre histoire. Et pour cela, il faut garantir l'accès à toutes les archives qui permettront aux historiens de raconter cette histoire. C'est cela seulement qui pourra donner à la société le socle dont elle a besoin pour tirer les leçons du passé.
Octobre 1917, l'héritage controversé de la révolution russe. Grand reportage Daniel Valo, réalisation Eva Moshinsky.